Le couvre-feu maintenu de 22h à 5h jusqu'au lundi 21 octobre inclus. Les restrictions concernant la vente d'alcool et les interdictions de transport d'armes et de carburant sont également prolongées. L'amérissage d'urgence ce matin au Mont-d'Or d'un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie nationale. Les trois membres d'équipage qui étaient à bord sont indemnes. Attention à votre vitesse en bateau si vous sortez en mer. Deux dugongs ont été retrouvés morts à Nouméa et Païta en fin de semaine dernière. Les détails dans ce journal. Le salon des collectionneurs, c'est ce week-end à Nouméa. Rencontre avec les exposants et les visiteurs déjà nombreux depuis ce matin. Et puis nous reviendrons en fin d'édition sur le programme des sports du week-end, du rugby en métropole avec la 6e journée de Top 14, mais aussi du tennis, du foot et du golf à suivre sur le territoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Et comme je le disais en ouverture, le couvre-feu est maintenu jusqu'au lundi 21 octobre inclus. Les restrictions concernant la vente d'alcool et les interdictions de transport d'armes, de carburant et de produits combustibles, mais aussi de corrosifs, sont également prolongées. Nicolas Legrand.
Oui, alors dans le détail, le couvre-feu qui est prolongé jusqu'au 21 octobre inclus, la mesure en vigueur depuis le début des exactions est maintenue de 22h à 5h du matin. La vente de boissons alcooliques reste, elle, soumise à des conditions, de 8h à 18h du lundi au jeudi et de 8h à midi le vendredi. Les quantités restent les mêmes, 4 litres de bière ou de cidre, 2 litres d'alcool compris entre 9 et 22 degrés ou alors 1 litre pour les alcools forts. À noter que la consommation d'alcool sur la voie publique reste interdite jusqu'au 3 novembre. Quant au port, au transport et à l'utilisation d'armes à feu, tout comme la vente au détail et le transport de carburant, produits combustibles et corrosifs, ils sont interdits jusqu'au 21 octobre. Par ailleurs, les rassemblements, défilés et cortèges, à l'exception toujours des marchés habituels et des manifestations sportives, restent interdits sur les communes du Grand Nouméa jusqu'à la même date.
Le Haut-Commissariat qui a également annoncé cet après-midi la modification des horaires d'ouverture des verrous sur la RP1 autour de la tribu de Saint-Louis. Dès demain matin, la traversée pourra se faire de 6h à 10h et de 14h à 18h grâce à des convois sécurisés et encadrés par la gendarmerie. Un incident rarissime. Ce matin, un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie nationale a dû amerrir d'urgence dans le secteur de Ploum, en face de la plage de Carcassonne. C'était à environ 300 mètres du bord. À bord de l'appareil se trouvaient trois gendarmes qui n'ont pas été blessés. Ils ont été récupérés par un bateau de plaisance présent sur la zone. La brigade nautique de la gendarmerie nationale et le RIMAP ont été déployés pour éviter que l'hélicoptère ne dérive. Le récit du colonel Bayarja, commandant en second de la gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie.
Ce matin vers 8h30, au cours d'une mission de routine, l'engin a commencé à présenter des difficultés, ce qui a obligé l'équipage à procéder à un amérissage d'urgence dans la baie de Ploum et de déclencher une opération de secours. L'opération de secours, c'est une grosse machine, un accident aérien, un aéronef comme ça, qui rencontre des difficultés. Il y a toute une procédure, il y a beaucoup de services qui ont été immédiatement mobilisés, qui ont permis d'intervenir rapidement au secours des militaires qui ne sont pas blessés. On a réussi à ramener la machine sur la berge, donc la machine n'a pas sombré parce qu'elle est équipée de flotteurs, et donc au final tout se passe bien, l'ensemble du matériel a été rapatrié à la gendarmerie et les trois personnels vont bien. Tout est très normé, ça a impliqué les FANC, la DSCGR, la gendarmerie, tout ça supervisé par le Haut-Saria, donc l'ensemble des services ont pu intervenir rapidement et de manière coordonnée, qui a permis de faire en sorte que cette histoire se termine bien.
Dans un communiqué, le haut-commissaire salue le sang-froid et le professionnalisme des trois membres de l'équipage pour cet amérissage d'urgence. Il remercie également le plaisancier qui a bien voulu apporter son aide.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Eddy Lecourieux s'exprime assez rarement dans les médias, mais ce midi, le maire du Mont-d'Or était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence et il a détaillé la situation de sa commune depuis le 13 mai, Nicolas Legrand.
Oui, il y a eu des exactions au Mont-d'Or et les dégâts sont chiffrés à quelques 150 millions. Mais le vrai problème de la commune, c'est bien sûr le blocage à la hauteur de la tribu de Saint-Louis et une situation d'insécurité qui interdit la circulation sur la RP1. Avec une commune littéralement coupée en deux, le maire parle d'un sentiment d'abandon.
On ne peut pas dire qu'on a été abandonné. Parce que c'est pas vrai, on n'a pas été abandonné, je pense que tout le monde a fait ce qu'il a pu. Mais en même temps, on s'est senti vraiment seul, on s'est senti, je sais pas comment vous dire, alors c'est vrai qu'il y avait de la sécurité, mais comment on peut imaginer qu'un espace en France soit coupé de la réalité, coupé du monde pendant 5 mois ? C'est aujourd'hui, même quand je vous parle, je me dis, mais comment on peut avaler ça. Comment on peut tenir quand on vous dit, bah, monsieur le maire, on va traiter là tout un peu, là, mais Saint-Louis, ça sera en dernier parce que là, il y a vraiment un gros travail en dernier, ok ? Moi, je me dis, ben, écoutez, on va en dernier, puisqu'on a l'habitude d'être les derniers. Hein. Et c'est 11 000, 12 000 personnes, de l'autre côté, c'est 2 à 3 000 personnes de Yaté. Imaginez, vous bloquiez Bouloupari, Bouraï, Saraméa, Farino, Lafoy, c'est ce qui représente 12 000 personnes. Vous imaginez ? Ben non, le mot d'ordre, c'est devenu une habitude. Et là, quand ça ne va pas, ben, qu'est-ce que fait le maire ? Voilà. OK, moi, je prends ma part, c'est moi le maire. Mais je trouve quand même pas admissible qu'il n'y ait pas plus de réactions.
Et Eddy Le Courrier rappelle qu'il a écrit au président de la République pour lui demander que l'État s'engage à financer une route pour éviter ce blocage. Il nous faut un ouvrage supplémentaire et il y en a un dans les cartons, rappelle le maire du Mont d'Or.
Il y avait dans les projets de 1980 et plus, là, quand il y avait le projet du site du Sud, il y avait une voie rapide qui passait, d'ailleurs on la voit, qui passe par Magenta, qui passe le long de la mangrove à Boulari et qui devait aller jusqu'à Progny-Ressources. Voilà, cette route, elle existe sur les plans en tous les cas, donc c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on vient nous faire dire que c'est une route de contournement de Saint-Louis. Non, c'est une route grande vitesse pour développer le Sud, qui, je vous le rappelle, a un potentiel énorme en termes de mines, mais aussi en termes de biodiversité. J'étais pas convaincu à l'origine parce que j'étais rentré dans ce contexte financier où on nous expliquait que 30 à 60 milliards, d'ailleurs on ne sait toujours pas le coût. Les études viennent de nouveau d'être lancées, des études complémentaires, puisque à l'époque, Calédonie Ensemble, avec son président, avait lancé des études, mais j'ai l'impression qu'elles avaient été plus lancées pour une campagne électorale plutôt qu'un aboutissement. Et aujourd'hui, ben peut-être je crois qu'il a fallu ce temps pour que tout le monde comprenne. Mais enfin, aujourd'hui, je ne comprends pas que l'État puisse nous envoyer balader, quoi. Je ne comprends pas parce qu'on nous a bloqué 5 mois, c'est l'échec total.
Lancer la construction de cette route, ce serait un grand chantier, souligne le maire du Mont d'Or, et ce serait un espoir pour la population à qui il faudra redonner confiance. Eddy Le Courrier souligne que depuis 5 mois, beaucoup de Mondoriens ont quitté la commune en raison de ces problèmes de circulation. Depuis le début de la semaine, l'État a mis en place un dispositif de sécurité sur la RP1, et Eddy Le Courrier évoque un projet d'aménagement de la route qui traverse Saint-Louis.
Je crois que le haut commissaire a des idées sur le sujet. D'ailleurs, je vais en profiter pour le remercier, mais très chaleureusement, lui et les forces de gendarmerie, ainsi que le procureur de la République. Moi, je vais vous dire, ils ont été à nos côtés tout le temps. Tout le temps, j'ai eu le haut commissaire. Je sais qu'il a été décrié, hein, parce que chacun voulait qu'il rentre massivement, violemment, etc., etc., dans Saint-Louis. Mais néanmoins, cette Calédonie est démocratique, républicaine et démocratique, elle a des lois. Et je suis quand même content de savoir qu'on n'a pas succombé, parce que je crois que les Calédoniens de l'autre bord auraient pu prendre les armes, je pense. Et je les félicite d'ailleurs, parce que je crois que tout un chacun avait envie d'en découdre, avec simplement pour que ça s'arrête, cette violence, cette peur, etc., etc. Mais le haut-commissaire, il a fait ce qu'il a dit. Ça a pris le temps. Et aujourd'hui, il est en train de travailler sur une solution de traversée de Saint-Louis, de choses qui pourraient être acceptées par tous.
Le maire du Mont d'Or qui s'est aussi exprimé sur le climat général depuis le 13 mai et il se dit persuadé que les coupables devront rendre des comptes.
Moi, on me garantit que la justice va passer. Je crois que la justice française est lente, mais elle passera, parce que c'est pas admissible. On peut pas aller faire du mal aux gens, on peut pas aller brûler des biens, on peut pas aller bousculer, frapper, on peut pas faire ça dans une société, mais quelle qu'elle soit, que ce soit Kanaki indépendante ou que ce soit la France, on peut pas faire ça. Je crois que ça a été un peu un barreau d'honneur, là. Je crois que ces derniers temps, les gens ont voulu montrer que c'était le dernier, il fallait là, le dernier round, il fallait secouer la Calédonie, il fallait demander, c'était un coup d'État, une prise de possession par les armes. Ben voilà, ça n'a pas eu lieu. Maintenant, il faut revenir à quelque chose de plus démocratique, et puis il faut revenir autour de la table. Mais on ne peut pas considérer que c'est comme ça, c'est normal, un pays. Moi, je ne sais pas ce qu'on va débattre à l'ONU, hein, quand on va à l'ONU. Comment on explique ça, là ? Je ne vois pas comment on peut expliquer ça. Après qu'on ait eu 30 années avec des dispositifs qui ont été mis en place, le partage de pouvoir, de responsabilité, pourquoi on a fait tout ça si au bout de 30 ans, on dit on prend les armes et puis on casse tout ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je crois que personne n'est prêt à accepter ça.
Interrogé par ailleurs sur les barrages des voisins vigilants, Eddy Le Courrier salue le rôle qui a été le leur et il ne souhaite pas leur lever si la population ne le souhaite pas. Il a enfin été interrogé sur la situation financière de sa commune.
Nous, on a perdu sur ce budget 800 millions déjà, sur un budget de à peu près 6 milliards. Ça va être encore plus l'année prochaine, 25 emplois pas renouvelés, 21 peut-être l'année prochaine. Aujourd'hui, on sait jusqu'au 31 décembre, on peut payer les salaires, on peut payer nos dettes, nos charges, mais après, on ne sait pas. Personne ne sait en Calédonie. On parle déjà de diminution de salaire pour les fonctionnaires, on parle de diminution du point, on parle de tout un tas de choses. Donc si on en parle, c'est qu'on sent que voilà, la faillite n'est pas loin, l'État est là pour aider à reconstruire détruire les écoles ou les bâtiments qui auront été détruits, ben, tant mieux, parce que je pense que on peut pas, la ville de Païta, par exemple, a besoin de son école ou de deux écoles, il faut l'aider. Mais pas à 80 ou à 70%, il n'y a pas un rond, donc c'est soit 100%, soit rien du tout. Une partie des assurances, mais là c'est complexe, on est en faillite quoi, pour l'instant, quasi, même si on a réussi à avoir encore une ligne de trésorerie, une avance de 800 millions, si on a réussi à avoir un emprunt de 200 millions, mais là on sait qu'on est au bout du bout quoi. Nous aussi, l'année prochaine, on sera certainement obligé de taper dans la masse salariale.
Eddy Le Courrieux qui rappelle que les barges ont coûté 100 millions à la mairie.
L'émission de transparence avec donc Eddy Le Courrieux, maire du Mont d'Or, est à retrouver sur notre site internet www.rrb.nc. Émission rediffusée dimanche soir après notre journal de 17h45. Et cette information qui nous est parvenue dans l'après-midi sans plus de précision, on apprend que Charles Wachetti n'a démissionné de son mandat de membre de la commission permanente. Il en a informé la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie le mercredi 9 octobre dernier. 17h56, on marque une première pause publicitaire dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants et on ira notamment du côté de Dumbéa où les voisins vigilants s'inquiètent des nouvelles exactions dans leur quartier.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal est au fichu.
Avant de quitter ses fonctions de ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné avait répondu à Sonia Backès. La présidente de la province sud l'avait alerté sur les ingérences étrangères en Nouvelle-Calédonie, Nicolas Legrand.
Premier motif d'inquiétude pour la présidente de la province sud, l'Azerbaïdjan. Stéphane Séjourné lui répond que, comme elle le souligne à juste titre, l'Azerbaïdjan a cherché à jouer un rôle en attisant les tensions en Nouvelle-Calédonie au mépris de la souveraineté française. Ce pays, écrit Stéphane Séjourné, soutient et relaie publiquement des manœuvres informationnelles d'une grande hostilité qui s'accompagnent de discours et d'actions se rapprochant d'opérations d'ingérence, voire pouvant être qualifiées comme telles. Ces manœuvres informationnelles sont bien documentées et reposent sur des modes opératoires similaires aux méthodes russes, avec pour objectif de porter atteinte à nos intérêts, ajoute l'ancien ministre des Affaires étrangères, avant de préciser que Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, a notamment documenté des manœuvres informationnelles ciblant spécifiquement la Nouvelle-Calédonie. Le second motif d'inquiétude de la présidente de la province sud, c'est la mission que veulent effectuer en Nouvelle-Calédonie des États du Pacifique. Stéphane Séjourné indique dans ce courrier que la mission d'information du Forum des îles du Pacifique, à laquelle le président de la République a donné son accord, s'inscrit dans la volonté de la France de dialoguer et de coopérer avec ses partenaires dans la région. Il précise que cette mission, qui se déroulera sous la conduite de l'État, portera sur le recueil d'informations et le dialogue et qu'un accord s'est engagé avec le Forum des îles du Pacifique pour exclure une quelconque médiation. Il ajoute en conclusion que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est attaché à faire comprendre à l'ensemble de nos partenaires internationaux que le règlement de la crise et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, territoire de la République française, ne pourront passer que par la condamnation des violences et le dialogue entre les parties prenantes à l'accord de Nouméa.
Les communes de Galagomen et Koumak, touchées par les flammes cet après-midi, les pompiers aidés d'un hélicoptère bombardier d'eau sont intervenus. Charlotte Coulson.
Oui, aux alentours de 14h30, un feu a été déclenché à proximité du lotissement Tribal à Koumak, menaçant certains logements. Pendant une heure, la route entre les lotissements Tougout et Tribal a donc été coupée et les habitations évacuées. Les pompiers du SIVM Nord, aidés de la sécurité civile et d'un hélicoptère bombardier d'eau, ont pu maîtriser la tête du feu vers 16h. Malgré tout, ce sont près de 10 hectares qui sont partis en fumée. Un incendie d'origine volontaire. Heureusement, aucun dégât matériel ou humain n'est à déplorer, mais les soldats du feu sont toujours mobilisés. Et un peu plus au sud, à Kaalagomen, un feu a également été déclenché au pied de la mine Wazangou vers 13h30. La zone étant déjà équipée de pare-feu, l'incendie a pu être rapidement maîtrisé par les équipes du SIVM Nord. Aucune structure n'a été impactée.
À Dombéa, des voisins vigilants, inquiets depuis quelques semaines, les barrages érigés lors du 13 mai doivent être retirés. Une demande des forces de l'ordre aux différents comités de quartier avec pour objectif un retour à la normale. Mais depuis la levée de ces barrages, les voisins vigilants de la Pointe à la Dorade constatent des exactions. Charles est membre du comité des voisins vigilants du quartier et il témoigne.
Depuis qu'on assure la surveillance du quartier depuis le 13 mai, on a eu une exaction. La seule différence, c'est que alors que les forces de l'ordre nous demandent de revenir à une situation qui semble la plus normale possible, de démonter l'intégralité de notre dispositif de surveillance, depuis que ça a été fait, deux jours après, on a trois vraisemblablement collégiens du quartier qui sont venus allumer des feux sur le sentier piétonnier côté sud. Et il a été relevé plusieurs départs de feu, apparemment à l'essence. Donc avec volonté manifeste de nuire, puisque ces départs de feu ont été faits au vent des maisons qui étaient toutes proches. Pour moi, il y avait une véritable volonté d'atteindre les maisons qui sont aujourd'hui inhabitables.
Une dérogation a été demandée aux gendarmes, mais n'a pas reçu de réponse positive pour le moment.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, selon vous, le maintien du dispositif des voisins vigilants à Dombéa aurait-il pu éviter l'incendie de la Pointe à la Dorade? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 96% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à la présence d'effectifs de gendarmerie en renfort de la police dans certains quartiers de Nouméa, comme c'est le cas notamment à la Vallée du Tir. Ils ne sont que 4% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Justice, le procès de l'incendiaire de l'église de Thiers à Pointe-d'Imy renvoyé au 4 novembre. Le suspect de 24 ans est accusé d'avoir mis le feu à l'église, c'était le 14 août dernier, mais aussi d'avoir cambriolé en mai la mairie de Pointe-d'Imy. Il avait été confondu par son ADN avant de reconnaître les faits au cours de son audition. Le jeune homme reste placé en détention provisoire dans l'attente de son procès à la demande du ministère public mais aussi de la Défense pour éviter un risque de récidive et maintenir sa sécurité. Attention à votre vitesse en bateau si vous sortez en mer. Deux dugongs ont été retrouvés morts à Nouméa et à Païta le vendredi 4 octobre, vendredi dernier donc, dont l'un a été percuté par un navire, Charlotte Coulson.
Oui, l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, l'ANCB, appelle à la vigilance des navigateurs. Les activités humaines sont une des causes principales de décès des dugongs, une espèce classée en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les précisions de Valentine Viss, chargée de mission plan d'action dugong, l'ANCB.
Il y a des vétérinaires qui sont intervenus et ils ont donc réalisé des analyses qui ont permis d'identifier la cause d'au moins un des animaux. Et en fait, on sait que l'un des deux a succombé suite à des blessures causées par une collision avec un bateau. Mais on appelle surtout à être particulièrement vigilant, toutes les personnes, tous les usagers du lagon, en fait, surtout à modérer sa vitesse lors de la navigation, notamment à l'approche des îlots, des herbiers, aux abords des côtes, où sont généralement les dugongs. Ils broutent dans les herbiers, ils passent beaucoup de temps en journée au niveau des herbiers. Donc voilà, vraiment rester vigilant et modérer sa vitesse.
L'Agence néo-calédonienne de la biodiversité appelle la population à signaler tout dugong mort ou en détresse en appelant le numéro d'urgence du COSNC, soit le numéro 15.
Vous écoutez InfoSoir, il est 18h04.
Le 45e sommet de l'ASEAN, Association des Nations d'Asie du Sud-Est, se tient au Laos. À cette occasion, Anthony Albanese, le premier ministre australien, a eu un entretien qu'il a qualifié de productif et d'important. On écoute Jean-Pierre Zajac.
Lors de la conférence de presse qui a suivi cet entretien, Anthony Albanese a déclaré avoir profité de sa rencontre avec Li Qiang pour aborder, je cite, « l'ensemble des questions de sécurité régionale et internationale, y compris les inquiétudes de l'Australie concernant toute action déstabilisatrice de Pékin en mer de Chine méridionale et le récent essai par la Chine » d'un missile balistique intercontinental. La poursuite du dialogue, a-t-il insisté, offre à l'Australie la meilleure voie pour faire progresser ses intérêts nationaux, mais aussi pour faire progresser la paix, la stabilité et la sécurité dans notre région. Les relations avec l'Australie ont continué à progresser dans une direction positive, a déclaré Li Qiang en réponse. à Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h05, on marque une seconde pause publicitaire dans ce journal. Restez avec nous, après ça on parlera du programme festif du week-end et notamment le salon des collectionneurs qui a lieu jusqu'à dimanche à Nouméa.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léo Fichou.
Le 24e Salon des collectionneurs a ouvert ses portes ce matin, la salle d'honneur de l'hôtel de Nouméa. Amateurs de belles pièces et passionnés de collection, l'occasion de découvrir 35 exposants spécialisés qui vous présentent leur trésor unique, Elinda Boiscou.
À l'entrée de la salle d'honneur de la mairie, plusieurs mobilettes sont exposées. L'occasion pour vous de découvrir des modèles rares et vintage qui ont marqué des générations. Pour Jean-Yves Pensé de Mob Passion NC, depuis l'ouverture ce matin, les visiteurs sont nombreux à s'arrêter pour regarder les mobilettes dispersés dans la salle.
C'est une collection, j'en ai plusieurs. J'ai des amis qui en ont plusieurs aussi. On est tous passionnés à refaire des mobilettes dès qu'on en trouve une. Alors là, on a exposé une dizaine. Il y a la marque Motobécane, MBK et Peugeot. Dès le départ, c'est ça, hein, c'est qu'ils sont partis d'un vélo, ils ont greffé un moteur dessus et par rapport au type et aux années, ben, ça a évolué. C'est différents styles. On part des années 60 avec la B104, la Peugeot, je crois que c'est la plus ancienne qu'on a, et après on va jusqu'à les années 2004, c'est là où les moublettes se sont arrêtées et les boosters ont pris le relais. Donc on a entre les années 60 et les années 2000, on a tous les modèles.
Depuis ce matin, comment ça se passe?
Ben, ça se passe bien, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'en avais une comme ça à l'époque !» Ils se rappellent des bons souvenirs et nous, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on vend une, ben non, c'est nos bébés. On a mis du temps, on a mis de l'argent, donc on préfère les garder. C'est tout le monde est collectionneur. Mais beaucoup de gens nous remercient de refaire vivre le patrimoine calédonien, d'être émerveillés, de voir, de dire « Ah bah tiens, j'en avais une avant, c'est magnifique, elle est restaurée ». C'est le plaisir aussi qu'on a par notre passion de la faire vivre.
Et les visiteurs sont nombreux à circuler entre les stands des tables d'objets de collection.
Je regardais les jouets,
par exemple.
Les Pokémon. C'est des Pokémon en figurine.
Les coquillages sont très intéressants. Tous les postes sont intéressants.
On a acheté plusieurs choses. Des petits carnets, un petit oiseau, des verres.
C'est plus des souvenirs, des cadeaux
C'est pour des cadeaux.
Je cherche des billets là chez M. Bressler, là, qui est un spécialiste. Donc je viens tous les ans chercher des billets anciens. Des billets d'Indochine, il y a des billets de Martinique. Et puis des billets de Calédonie, de Polynésie française. Puis je chine sinon un peu sur tous les autres. Là, vous voyez, j'ai déjà acheté un casque colonial, un collier en vertèbre, voilà, différentes petites choses.
Vous aurez également la possibilité de faire expertiser vos objets et faire estimer vos collections. Le salon des collectionneurs, c'est de 8h à 18h jusqu'au dimanche 13 octobre dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. L'entrée est gratuite.
Et dans le reste de l'actualité festive, on notera un programme plutôt léger en ce deuxième week-end de vacances scolaires. Toutefois, Charlotte Coulson, les Calédoniens pourront se rendre demain à la 10e fête agricole de Pointe-Boute.
Il s'agit de la première foire à se tenir depuis le 13 mai, celle de Koumac et de Bouraille ayant été annulée. Cette fête est donc très attendue et les milliers de visiteurs devraient faire le déplacement demain dans la plaine de la commune. Au programme, jeux équestres, lancers de claquettes, stands de produits locaux. En bref, tout ce qui fait l'ADN d'une foire réussie. Écoutez le maire de la commune. Yann Peraldi.
Alors un programme alléchant avec plusieurs concours et démonstrations, avec comme point d'orgue des démonstrations organisées par la CMA, des concours habituels de lancer de claquettes, du claquage du fouet, une présentation et vente d'animaux par un lycée agricole qui est assez présent aussi cette année. Et puis sans oublier bien sûr le rodéo en après-midi de 16h à 18h. Mais je n'oublierai pas de citer aussi les jeux équestres qui vont se dérouler tout au long de la journée et ce à partir de 9h le matin. Il y a à peu près 80 stands, donc des stands de produits agricoles et d'horticulture, donc avec des productions assez variées comme on peut en voir tous les ans. Alors je pense que ça sera une excellente vitrine des agriculteurs et artisans de la zone et même d'un peu plus loin.
En raison des horaires du couvre-feu, les animations s'arrêteront plus tôt que d'habitude et le rodéo nocturne sera avancé à 16h. Le rendez-vous est donné sur l'ancien hippodrome de Pointe-Boute de 8h à 19h.
Dans le Nord, toujours, la commune de Coumac organise un week-end découverte à l'occasion des Journées du patrimoine.
Les visiteurs pourront découvrir la richesse du patrimoine, souvent méconnu de Coumac. Entre visites guidées du vieux village de Thiébaghi, rencontres et activités nature, ce week-end sera riche en découvertes. Les précisions de Shafia Elmenaouer du service communication de la mairie de Coumac.
Ce week-end-là, on a les journées du patrimoine qui sont organisées comme chaque année à Coumac sur le site du vieux village des Thiébaghi. Donc c'est l'association qui ouvre ses portes gratuitement au public. Et nous, la commune de Coumac, on a voulu se saisir du coup de cet événement pour proposer avec nos partenaires touristiques, donc en termes d'hébergement et d'activité, des offres promotionnelles pour un petit peu attirer les gens sur la commune et qui passent un week-end découverte dans le Grand Nord. Voilà, on sait qu'après cette période un peu difficile qu'on a tous traversée, on a besoin un petit peu d'évasion, de venir dans le Nord, où ici, voilà, on a le vivre ensemble qui est vraiment marqué. On a hâte d'accueillir à nouveau les visiteurs et surtout nos prestataires sont vraiment impatients d'accueillir les gens dans leur structure pour passer vraiment un week-end en famille, entre amis, à la découverte ou à la redécouverte de notre belle commune de Coumac.
Et toutes les animations proposées sont gratuites. Le programme du week-end est à retrouver sur le site de la mairie de Coumac.
Du côté de la foi, les férues de lecture pourront profiter du Salon international du livre océanien au Centre socio-culturel.
Un événement organisé par la Maison du Livre qui sera sur place avec sa caravane remplie de bouquins. Les familles pourront également profiter de nombreuses animations, ateliers de sculpture, tressage et bien sûr un stand de livres et même une rencontre avec l'illustratrice Dominique Berton. Ça se passe à la fois de 9h à 16h.
À Nouméa, rendez-vous demain à l'Art Factory pour une série de sketchs au poivre et c'est signé Faut que ça sorte, compagnie.
Alain Mardel et son groupe de théâtre proposeront une série de sketchs sucrés, salés ou pimentés, dont certains sont même déconseillés aux enfants. Le tarif est à 1500 francs l'entrée. Une dose de bonne humeur à prendre demain de 19h à l'Art Factory en salle d'Amiens.
On reste du côté de Nouméa où demain, clap de fin pour la 16e édition du festival La Première Séance.
Pendant plus d'une semaine, une dizaine de films a été diffusée pour les jeunes cinéphiles en herbe et leurs familles. Demain sera la dernière occasion de profiter des films, spectacles et animations. Le festival se clôturera à 16h30 avec la projection du film À la poursuite du diamant vert au Rex de Nouméa.
Du côté des marchés et des vides-greniers, vous pourrez bien entendu retrouver tous les marchés municipaux habituels, mais aussi un vide-grenier organisé par le CIPAC.
Organisé demain de 7h à 14h, cet événement sera l'occasion de chiner et de découvrir une sélection d'objets à des jouets aux plantes, en passant par les vêtements ou même les meubles. Il sera possible de se restaurer sur place. Rendez-vous rue Gervolino à Magenta.
Notez enfin que ce dimanche se déroulera un marché de mamies à Farino. Pas de thème spécial pour ce mois-ci, mais vous pouvez toujours retrouver les stands de produits locaux habituels. Dumbéa, de nouveau sacrée ville active et sportive. La commune en est récompensée depuis 2018 et remporte cette année un troisième laurier, un label qui récompense une politique sportive dynamique et des actions de citoyenneté innovantes. Les précisions de Christophe Bonbon, chef du service vie associative, des animations et des sports de la ville de Dumbéa.
Oui, en fait, c'est vrai que la ville de Dumbéa était un peu le précurseur depuis 2018. On dit ville active et sportive, mais c'est vraiment la ville active, le sport dans tous ses valeurs, qui est également la culture qui s'imbrique dedans avec les cultures urbaines. Il y a aussi la citoyenneté, le sport professionnel également, parce que c'est vrai qu'on a des athlètes de haut niveau qui partent en France et qui viennent de Dumbéa. Donc c'est vraiment de valoriser le tissu associatif de Dumbéa. On est au total presque à 200 associations. Donc c'est vrai qu'une ville active, ok, sportive aussi, et également nous permet aussi d'avoir ce troisième laurier avec les actions de citoyenneté aussi derrière, qui permet également d'offrir un panel en fait au niveau de la population de Dumbéa.
Deville avait été candidate cette année pour obtenir ce label. Le Mont d'Or et Dumbéa, au total 194 communes de France ont obtenu ce troisième laurier, dont Marseille notamment ou encore Avignon. Et on parle toujours sport. On termine ce journal avec le programme sportif du week-end. C'est plutôt calme. Demain et dimanche, il y a quand même du rugby en métropole avec la 6e journée de Top 14.
Une 6e journée qui commence demain soir à 23h30, heure de Nouméa, avec le Racing 92 qui reçoit Toulon. Ensuite, 4 matchs sont programmés à 1h30 dans la nuit de demain à dimanche. Avignon-Bayonnais, Stade Rochelet, Bordeaux-Bègles, USAP-Montpellier, Vannes et section paloise Castres-Olympique. Dimanche matin à 6h05, le Stade Toulousain accueillera Clermont. Et enfin, lundi matin, pour terminer cette 6e journée de Top 14, le Stade français se déplacera sur la pelouse de Loup à Lyon.
En rugby, toujours, les féminines de l'équipe de France sont au Canada. Elles disputent actuellement un tournoi international.
Dimanche matin à 9h45, heure de Nouméa, les Bleus seront opposés à la Nouvelle-Zélande. C'est la 3e et dernière journée de cette compétition qui rassemble l'Angleterre, l'Irlande, le Canada, les États-Unis et donc la France et la Nouvelle-Zélande. Les tricolores qui ont perdu contre le Canada en ouverture avant de battre les Américaines le week-end dernier.
Allez, on passe du rugby au tennis avec les demi et la finale du Masters 1000 de Shanghai ce week-end.
Les deux derniers quart de finale déjà ce soir. Tyler Fritz et David Goffin viennent d'entrer sur le court. Le vainqueur affrontera en demi demain le vainqueur de l'autre quart de finale entre Novak Djokovic et Jakub Mencik. Dans l'autre partie du tableau, le numéro 1 mondial Yannick Sinner est lui déjà qualifié pour les demi. Il sera opposé à Tomáš Marac.
Sur le territoire du tennis aussi, c'est au Receiving que ça se passe avec le tournoi senior.
Le tennis club du Receiving organise effectivement un tournoi réservé aux dames et aux messieurs de plus de 35 ans, avec trois catégories, les plus de 35 ans, les plus de 45 ans et enfin les plus de 55 ans. Le tournoi démarre ce soir et se terminera dimanche prochain, le 20 octobre, avec les finales.
Du football, comme chaque week-end depuis la fin du mois d'août, avec le trophée du Grand Nouméa.
Et ce week-end, pas d'exception. Deux matchs sont programmés demain au Parc des Sports de Coutiot. À 14h, le Dimbéa FC affrontera Tigaspor. Puis à 15h45, l'AS Welch sera opposé à Horizon Sport. Petit point sur le classement, après 8 journées de championnat, Magenta et Horizon Sport se partagent la première place avec 18 points. Le Mondor est 3e avec 15 points. Ensuite, trois équipes sont à égalité avec 13 points. Dimbéa, Tigaspor et le Gaïka est 7e avec 9 points et enfin Lossi et Melec ferment la manche avec 2 petits points.
Et on termine cet agenda des sports du week-end avec du golf. Plusieurs tournois sont à suivre demain et dimanche sur le territoire.
Oui, il y en a 3 sur le territoire, 2 demain et 1 dimanche. Demain, il y a d'un côté l'Open Super 7 à la Wangui dès 8h et le tournoi AGCD ranking numéro 6 au golf de Dimbéa dès 9h. Enfin, dimanche, le rendez-vous est donné dès 8h30 au golf de Tina pour le trophée des pros.
Merci Charlotte. Et on passe donc tout de suite à la météo avec vous, Nicolas.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et comme je le disais, la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, en début de nuit, les nuages seront nombreux avec parfois une faible averse, puis les étoiles gagneront du terrain. L'alizé de sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds en général. Localement, sur la moitié sud de la Grande Terre, il soufflera de 20 à 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds en début de nuit. Les températures minimales seront en baisse avec 12 à 16 degrés dans l'intérieur des terres et 17 à 20 degrés sur le littoral. Demain matin, les nuages seront bien présents sur l'est et l'extrême sud, où une averse reste possible, alors que le soleil dominera sur les autres régions. L'alizé de sud-est se maintiendra de 15 à 20 nœuds en général, localement 20 à 25 nœuds avec des rafales autour de 32, ce sera sur le nord-ouest.
Merci Nicolas pour ce point complet sur la météo. C'est donc la fin de cette édition.